sur France Culture.
Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Stéphane Distinguin.
Bonsoir Zoé Svez.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous car vous êtes, depuis 2003, le créateur, le patron, le fondateur de Faber Novel, donc société dédiée à la transformation numérique, si on essaye de résumer votre activité, qui existe donc depuis 2003. Maintenant, je crois que vous êtes présent dans le monde entier, y compris en Chine.
Oui.
Depuis 2 ans, c'est ça ?
Tout à fait.
À Shanghai, puisque vous avez racheté un cabinet, une société qui avait des activités, disons, cousines, notamment de conseil, de ce que vous faites en France. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous implanter en Chine ?
Parce que... Est-ce que je peux dire que c'est là-bas que ça se passe ? Enfin, en tout cas, c'est là-bas que beaucoup, beaucoup de choses se passent. Et que ce qu'on a pu voir donc depuis 15 ans avec la montée de la Californie dans un premier temps. Parce que quand on monte il y a 15 ans, en fait, le mobile, il était surtout européen, japonais, coréen.
Nokia,
et puis après ça, on a vu avec l'iPhone se passer vraiment l'émergence et puis la surpuissance en fait de la Californie. Et là, maintenant, depuis quelques années, c'est la Chine, c'est Shenzhen, c'est Shanghai qui donne le là.
Et donc vous y êtes, c'est pour ça que c'est bien. Vous faites partie, vous publiez très très régulièrement des très belles études. Vous l'avez beaucoup fait avec les GAFA, vous avez ausculté, essayé de comprendre les stratégies, fait de l'analyse. Et là, vous avez, la semaine dernière je crois, publié une étude assez passionnante sur le fameux cas WeChat. Pourquoi parler de WeChat ? Pourquoi il fallait qu'on se penche un peu sur WeChat ici, en Europe ?
Est-ce que on peut dire qu'ils ont réussi ce qu'on a raté? En tout cas, c'est la première fois qu'on voit un modèle émerger qui est justement un modèle non californien, qui n'est pas une copie de ce modèle non plus. Donc, on a affaire à quelque chose de radicalement nouveau, très puissant, 1 milliard d'utilisateurs, des usages comme on les imaginait pas.
Taux de pénétration complètement fulgurant dans le pays.
C'est la Chine. La concurrence n'est pas tout à fait la même. Il y a moins d'alternatives bien sûr, mais c'est 92% en fait de taux de pénétration du service en Chine. Et c'est vraiment, ça vaut pour tout et pour tout le monde.
On parle d'une super application. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer de résumer à ceux qui ne connaissent pas WeChat, qui ne sont jamais allés en Chine, ce qu'on fait sur WeChat ?
Alors, WeChat, au départ, c'est un service de messagerie. Donc, et d'ailleurs, le nom de Tencent, ça veut dire 10 centimes. C'était le prix d'un SMS au début. Donc, ce qu'on fait, c'est on commence par des services qu'on connaît tous, d'échange de messages de personne à personne. Et puis après ça, c'est assez rapidement devenu en fait de service de messagerie un système de réseau social. Et puis ensuite, ils ont ajouté en fait des fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités d'échange et en particulier un fonctionnement de paiement. Donc, on permet aussi à des entreprises d'être en contact de ses utilisateurs. Et puis, des services publics, des services comme Doctolib en France. On a à peu près tous les services en fait qui sont dans WeChat. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, nous, c'est de voir comment WeChat est devenu l'Internet chinois.
C'est ça. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment WeChat est devenu WeChat. Avec, en fait, des stratégies tout à fait différentes. Déjà, comment est-ce qu'il est né, ce fameux service? Il est né, je crois, de manière assez particulière, puisqu'on est au sein de Tencent, alors que Tencent a déjà une application de messagerie qui fonctionne plutôt bien. Ils décident de prendre les devants. Et en fait, c'est un concours interne qui a permis de mettre sur pied WeChat.
Alors, Tencent s'est créé donc en 2001, en s'inspirant de services qui existaient déjà, et en particulier de messagerie. Et à cette époque-là, il y a un service israélien qui s'appelle ICQ, qu'ils copient, et ils font eux un service qui s'appelle QQ, qui est donc un système de messagerie
classique
sur PC, donc ouais. Pas sur mobile. Et en 2010, émerge en fait avec le smartphone des services qui sont des services de messagerie sur mobile, et en particulier Kik au Canada, qui est copié très très vite en fait par beaucoup d'acteurs. Ils sont à peu près une quinzaine à ce moment-là à LCD. Faut aussi comprendre qu'à son lancement en fait, WeChat n'est pas du tout parmi les premières. Ils sont une trentaine, quarantaine sur la ligne de départ. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que WeChat a décidé en fait de faire un concours interne. Donc ça s'appelle dans la culture chinoise Saima. C'est le fait de pouvoir. C'est comme une course de chevaux. Donc ils mettent sur la ligne de départ là encore plusieurs équipes. Et l'équipe qui
a gagné, de l'entreprise,
c'est celle d'Alain Chang, qui est donc le fondateur en fait en interne de WeChat. Et qui va porter comme ça en fait l'application encore aujourd'hui. Et le créateur du produit, donc qui n'est pas le patron en fait de Tencent, hein, qui est Pony Ma, est un peu le Steve Jobs chinois.
Parce qu'en fait, c'est ça que vous expliquez dans cette étude qui est passionnante. Vous dites que c'est un modèle de ce qu'on appelle R&D, c'est-à-dire recherche et développement, parce qu'ensuite, toute la culture de l'entreprise continue à être basée sur ça.
Complètement.
Plus encore, on a l'impression que dans les entreprises californiennes. Pourquoi ?
Ben, pourquoi? Alors déjà, simplement en termes de nombre de personnes, c'est 32 000 personnes Tencent, et il y a la moitié des personnes qui travaillent à la R&D. Il y a un fonctionnement, une émulation. On a eu ce fonctionnement là, des courses des chevaux qui est répété à chaque fois. Il y a l'intégration de services. Il faut aussi insister sur le fait que Tencent, donc la maison mère de WeChat, est extrêmement connue pour ses jeux qui sont joués dans le monde entier, qui est le leader mondial du jeu vidéo aujourd'hui.
On a parlé notamment de Fortnite,
qui l'a fait connaître. Donc Epic, qui a une participation majoritaire de, et puis beaucoup d'autres jeux, des jeux en Chine.
Cette culture-là, elle irrigue en fait.
Elle irrigue partout. Et puis en fait, cette culture de l'écosystème en fait, qui c'est vraiment ça qu'apporte en fait Tencent et WeChat
aussi. Vous le dites.
Alors, travail d'équipe, c'est une culture qui est justement pas tout à fait peut-être ce que nous on entrevoit quand on parle de culture d'équipe. Ça peut être justement de la concurrence entre les équipes. Il est notable pour que Tencent, qui est basé à Shenzhen, les équipes qui ont développé WeChat ont décidé de s'éloigner, d'être le plus loin possible pour justement connaître cette indépendance. Donc il y a un modèle qui est un modèle particulier, comme ça, d'effervescence permanente, d'ajout de fonctionnalités, d'être très à l'aise avec la concurrence et la compétition, d'en choisir qu'un seul à la fin. Parce que là, il faut aussi insister sur le fait que WeChat, comme la plupart des géants de l'Internet chinois, sont très concentrés. Il y a peu d'alternatives, il y a très peu d'alternatives.
Enfin, concrètement, aujourd'hui, vous allez en Chine, vous voulez voyager, c'est très 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 difficile de ne pas télécharger WeChat. Justement, le modèle économique n'a rien à voir avec ce que nous, on connaît. C'est effectivement, vous l'avez dit, quasiment tout Internet. C'est la super application, vous pouvez payer avec, vous pouvez avoir des bons de réduction, vous pouvez donner rendez-vous à quelqu'un en lui envoyant la carte, vous pouvez effectivement payer, on l'a dit, vous pouvez quasiment tout faire, prendre un rendez-vous sur Doctolib, etc. Ce qui suppose qu'en fait, c'est une appli avec plein de mini-programmes et que c'est pas du tout le même modèle économique, par exemple, qu'il n'y a quasiment pas de pub sur WeChat. Pourquoi ?
Très peu de pub. D'abord parce que l'esprit même de WeChat, c'est de rendre service, plus qu'en fait de vendre de l'attention, qui est beaucoup plus le modèle des réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, qui vous enferme.
Vous pouvez essayer d'expliquer, Facebook, c'est quoi le principe ? C'est de vous garder le plus longtemps possible.
C'est de vous garder le plus longtemps possible et de vous exposer, de vous avoir à sa main, de façon à vous exposer à des contenus qui peuvent être des contenus intéressants, des médias, votre avis sur beaucoup de choses, mais qui sont aussi assez régulièrement de la publicité. Là où le modèle de WeChat est radicalement différent, c'est qu'il y a beaucoup moins de publicité d'abord parce que en fait l'audience est beaucoup beaucoup plus segmentée, la donnée détenue par WeChat lui permet aussi de savoir beaucoup mieux en fait qui utilise et ce qu'ils veulent faire, puisqu'il y a beaucoup plus de transactions sur WeChat en fait que sur Facebook même. Et puis il y a aussi la capacité du réseau social et de la culture chinoise à faire que les utilisateurs eux-mêmes sont des agents de la promotion en fait des contenus et en particulier des marques, puisque, et ça aussi il faut quand même bien insister sur ce point, on parle beaucoup moins politique, il y a beaucoup moins d'échanges en fait d'opinions sur les réseaux sociaux chinois que sur les réseaux sociaux qu'on connaît nous, et qu'aller faire un tour en ce moment sur Facebook ou sur Twitter pour bien s'en persuader.
Mais justement, comment est-ce qu'il fonctionne ce modèle économique du coup? WeChat en fait est une espèce de met en relation des marques et des choisis. Comment est-ce que ça fonctionne?
Déjà, il marche extrêmement bien, parce que c'est pour une trentaine de milliards de chiffre d'affaires, c'est plus de 10 milliards de résultats, donc c'est extrêmement rentable. Et le fonctionnement passe par en fait l'achat de petits éléments, donc c'est vraiment ce qu'ils ont appris avec le jeu vidéo, c'est ce qu'ils ont aussi appris à un moment où ils ont hésité à rendre les messageries payantes, ils se sont rendu compte que les personnes n'étaient pas du tout prêtes à payer. C'est encore venu d'ailleurs, et ils ont très bien su copier le modèle coréen en particulier, des mini-achats dans les applications, dans les jeux, donc il y a cette partie-là qui est extrêmement rémunératrice. C'est aussi le paiement de marques ou d'entreprises qui veulent être en contact avec une audience extrêmement qualifiée, donc qui paye cher pour le faire. Et puis ensuite, il y a les transactions elles-mêmes sur lesquelles en fait WeChat réussit à se rémunérer, évidemment.
Un pourcentage. Une dernière question justement sur les données. On l'a bien entendu, vous l'avez dit, taux de pénétration faramineux, énormément de transactions, des utilisateurs extrêmement identifiés. On est sur une concentration de la donnée absolument faramineuse. Quid de cette donnée en Chine? Et puis, comment ça s'est soldé, les quelques tentatives de WeChat de s'implanter ailleurs, avec notamment évidemment cette question, est-ce que ne serait-ce que pour la question pure de la donnée, ce serait possible pour eux aujourd'hui d'arriver en France, aux États-Unis? Ils ont essayé, ça n'a pas marché.
Alors, cette culture-là, on a déjà bien parlé du Saïma et donc de la course de choix, elle vaut aussi pour les géants de l'Internet. C'est-à-dire qu'il est très très clair que le pouvoir chinois a décidé d'avoir des champions, c'est le plan de Xi Jinping, pour 2025, du Made in China. Il a aussi décidé d'avoir des équivalents de GAFA. Et ces équivalents de GAFA, typiquement, c'est Alibaba et Tencent à qui il a confié en fait le paiement. Donc ça donne Alipay et ça donne WeChat Pay. Donc je veux dire, c'est que ce rapport à la donnée, il est beaucoup plus assumé, voulu en fait que n'importe où ailleurs. Donc la donnée est là, elle permet de faire des choses comme qui intéressent particulièrement les annonceurs aujourd'hui, et ça se fait avec l'aval, l'assentiment en fait du pouvoir chinois. Donc ce qui est radicalement nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la CNIL qui n'existe pas et on voit à quoi elle peut servir en France. Donc après ça, pourquoi est-ce que ça marche moins bien en Europe ou aux États-Unis? D'abord parce qu'en fait il y a déjà des applications qui existent, donc c'est pas facile de les remplacer. Hein. Vraiment l'idée c'est de voir que en général on en a quelques-unes dans son téléphone, on va pas avoir
une seule 17 qui fait tout.
Donc voilà. Donc c'est vraiment le sujet. Donc on n'est pas tout à fait prêt à les remplacer par celle-ci, mais il faut bien noter qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer, et en particulier avec WeChat Pay, c'est l'arrivée des touristes chinois. Moi la pharmacie à côté de chez moi commence à prendre ce système de paiement, ce qui est surprenant. Et donc cette conquête passera en fait aussi par les touristes chinois demain.
Merci beaucoup Stéphane Distinguin, vous restez avec nous pour la suite de ce débat.